Ça aurait été tellement facile d'avoir une vie sans problème, hein, après la conversion, voilà. Mais parfois dans la vie, il se passe des choses qui nous troublent. Hein, voilà, récemment, hein, la perte d'un frère. Récemment, cette semaine, nous avons appris qu'un jeune frère, 40 et quelques années, est atteint d'une maladie absolument très 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 compliquée sur Marseille. Et il s'est marié il y a peu de temps. C'est compliqué tout cela. Ce trouble n'est pas seulement ce qui touche notre cœur, ça a aussi touché la pensée des hommes de la Bible. On connaît peut-être ce psaume d'Asaph 73, où il est dit, donc ça c'est version français courant, hein, psaume appartenant au recueil d'Asaph. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà une belle déclaration. Dieu est bon. Mais c'est la suite qui va poser un problème. Pourtant, dit-il, j'ai failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit. Et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Et puis il continue verset 9. Ils ouvrent la bouche, ceux-là, pour s'attaquer au ciel, et leur langue n'épargne rien sur terre. Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent leurs richesses. Et c'est donc en vain que moi j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Voilà que je suis tout le jour frappé, tous les matins mon châtiment est là. Asaph était un musicien du roi David et il fait cette amère constatation. Il veut marcher avec Dieu et il s'attache aux promesses de Dieu. Dieu qui avait dit dans le Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, eh bien l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je pense qu'Asaph était quelqu'un qui a mis son cœur à obéir à Dieu. Et voilà qu'il remarque, qu'il constate que sa vie est plus compliquée et que ceux qui ont rejeté Dieu, leur vie, semble tellement plus facile. Quel contraste! Véritable trouble intérieur qui se produit. La bénédiction tant espérée laisse place à la douleur. Quel contraste! Les infidèles s'épanouissent alors que les justes sont écrasés. Et disparaissent même. Ils ont été nombreux, ceux qui ont vécu ce trouble. On peut penser à Job, le premier à qui on pense, hein, quand on parle de trouble de douleur, hein, c'est le plus cité. Job aussi s'est plaint devant Dieu. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi vieillissent-ils? Et même reprennent-ils des forces? Leurs descendants s'affermissent avec eux, en leur présence et leur rejeton prospère sous leurs yeux. Dans leur maison, c'est la paix, non la peur. Le bâton de Dieu n'est pas contre eux. Ils se réjouissent au son des instruments et leur jour s'achève dans le bonheur. Eh oui, Job. Et puis plus tard, il y a un jeune prophète, Jérémie. Or Jérémie, il boue à l'intérieur de lui-même, tellement que finalement il se lâche devant Dieu. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je rentre en procès avec toi. Je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle une réussite? Pourquoi vivent-ils tranquillement les traîtres qui trahissent? Tu les as plantés et ils ont même pris racine. Ils progressent et ils portent du fruit. » Ah, ce trouble intérieur, ça a été aussi l'expérience difficile de l'Église primitive. Lorsque le jeune Étienne, l'évangéliste, prometteur, se fait lapider. Et j'imagine que quand ils sont venus avec cette nouvelle auprès de l'Église, Les frères et sœurs ont dû dire, mais pas Étienne, Seigneur, pas lui. Ils ont été troublés. L'exécution de l'apôtre Jacques aussi, acte chapitre 12. Quand même, un instrument entre les mains de Dieu, formé par Jésus lui-même. Quand le fidèle est troublé, désemparé, bouleversé, alors il y a besoin d'avoir un ancrage solide. Ce matin, Carmel a cité ce texte d'Hébreux 6, l'ancre solide de notre espérance. Parce qu'il y a besoin d'être solidement ancré pour passer par des zones de perturbation. Alors je vous propose 3 pistes, il y en a certainement d'autres, mais ce matin je voudrais partager 3 pistes. Le premier, c'est que il y a quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous vivez. Quelqu'un est passé par là. La deuxième, ce sera Dieu respecte toujours notre charge maximale. Et puis nous verrons que Dieu accomplit en nous une œuvre qui nous dépasse. Quelqu'un est déjà passé par là. Quand nous passons par le feu de l'épreuve, souvent nous pensons que nous sommes seuls. Alors qu'en réalité, d'autres chrétiens aussi sont passés par là. Licenciements, soucis familiaux, relations compliquées. Il y a aussi l'épreuve de la maladie, le deuil. Dieu ne nous a pas sélectionnés, nous, d'une manière particulière, pour être la seule personne au monde à vivre ce genre de problème. Dieu, eh bien, a fait passer aussi d'autres personnes avant nous, et d'autres aussi passeront après nous. Je me souviens de cet élève qui était dans ma classe, qui avait raté son bac. Elle ne savait pas comment l'annoncer à ses parents. Ben, de toute façon, on ne peut pas le cacher, hein. Et du coup, elle l'a annoncé, et quand j'ai eu l'occasion de la revoir, j'ai dit alors? Eh bien, elle dit, j'étais surprise parce que mon père a dit, oh, ce n'est pas la dernière et ce n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Malheureusement, c'est vrai dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Pas la première et pas la dernière. Le problème est que nous portons pas forcément attention à ce qui se passe autour de nous. Et en regardant autour de nous, eh bien, nous voyons qu'il y a quand même des gens qui passent par des difficultés incroyables. Si nous nous laissons vaincre par l'idée que Dieu agit de la bonne manière avec les autres et pas avec nous, nous nous fragilisons spirituellement. La Bible est remplie d'hommes et de femmes fidèles qui ont lutté contre des souffrances, qui ont été confrontés aux mêmes défis, parfois pires. Et Pierre le rappelle dans son épître. Sachant, dit-il, que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Chaque génération de fidèles a été troublée par des événements qu'elle a subis. Et si le Seigneur ne revient pas dans cette génération-là, les générations suivantes seront certainement confrontées aux mêmes troubles. Je ne dis pas ça par fatalisme. Je ne dis pas ça pour relativiser le problème ou minimiser la souffrance. Mais c'est plutôt pour nous faire réaliser qu'en oubliant ce point, nous finissons par interpréter les épreuves de manière culpabilisante. Vous savez, il nous arrive un pépin et notre première réaction est de dire « Mais où est le problème ? J'ai péché quelque part ?» Et Dieu remet les pendules à l'heure. Ou c'est pourquoi il m'est arrivé ceci et cela. C'est curieux de voir que cette notion de péché, eh bien, apparaît comme une des premières réponses à nos cœurs. J'ai dû faire quelque chose qui n'est pas juste quelque part pour qu'il m'arrive telle ou telle chose. C'est la réaction de la veuve de Sarepta. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, hein. Élie, voilà, est en train d'être recherché par Akaz et il rencontre une veuve avec son fils qui, il s'incruste quand même, hein, lui dit, allez, fais-moi, voilà, un gâteau et tout, hein, avec le peu qui te reste, hein. Bon, ça manque de savoir vivre, mais bon. Donc, du coup, elle accepte, elle a confiance et puis, voilà, quelques temps après, ces événements, nous dit un roi 17-17, Eh bien, le fils de la femme, la maîtresse de la maison, tomba malade, son fils, donc, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Alors elle dit à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Ah, cette culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait ? Et pourquoi Dieu me fait-il payer maintenant ? Bien sûr, il y a des péchés qui, par leurs conséquences, peuvent parfois avoir provoquer l'irréversible. Mais honnêtement, si Dieu devait punir de mort l'homme à cause de son péché sur terre, mes frères et sœurs, qui subsisterait ? Je pense que d'ici demain soir, il n'y aurait plus personne dans la Drôme. Rassurez-vous, j'oublie pas l'Ardèche non plus. Ni en France, ni dans le monde. Car tous ont péché, nous dit la Bible, tous. Pensez-vous que Job, Jérémie, Étienne, Jacques ou Paul étaient plus pécheurs que d'autres ou ils ont souffert à cause de leurs péchés? Eux qui étaient des modèles de foi, pourtant ils ont connu la détresse face à l'adversité que des non-croyants à leur époque n'ont pas rencontré. Alors, nous pouvons nous identifier à eux. Ils sont passés par là. Nous pouvons nous identifier à Pierre, à sa fougue, à ses paroles irréfléchies. Nous pouvons nous identifier à Timothée et sa timidité, à l'impulsivité des deux frères Jacques et Jean, peut-être au doute de Thomas, peut-être aux déceptions de Paul. Nous ne sommes pas seuls. D'autres sont passés par là, bien avant nous. Et quelque part, on peut affirmer que si d'autres sont passés par là, ils sauront à même de mieux nous comprendre dans nos souffrances, nos questionnements, nos inquiétudes. Ce matin, Carmel a présenté le verset « Vous avez été affligés afin que vous soyez consolés. Et vous avez été consolés afin que vous puissiez consoler ceux qui ont été affligés. » Nous pouvons nous aussi comprendre celui ou celle qui passe par les épreuves que nous vivons chacun. Ces troubles face à l'adversité ne sont pas un domaine réservé à quelques-uns seulement. D'autres l'ont également expérimenté. Jésus l'a expérimenté. Hébreux 4 nous dit ceci, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de nous comprendre ou de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté ou éprouvé, c'est le même mot en grec, comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Jésus est le mieux placé pour nous comprendre. Lui qui a pleuré la mort de son ami Lazare, il sait ce que c'est que de pleurer un être cher. Lui qui a été trahi par Judas, il sait ce que c'est que l'abandon. Lui qui a été rejeté par les pharisiens, il sait ce que c'est que le harcèlement. Quand le fidèle est troublé, désemparé, eh bien, il a besoin d'avoir une encre solide. Et cette encre, eh bien, c'est aussi de dire et de se rappeler que quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Alors, il y a une autre encre aussi, celle qui nous permet d'avoir une assise, c'est de savoir que Dieu respecte aussi notre charge maximale. Dieu connaît nos limites. Il sait la charge que nous pouvons porter. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de rencontrer quelqu'un qui était surchargé avec ses sacs de course. Hein. Alors, je voyais parfois ma mère avec ses sacs quand j'étais jeune en train de monter les escaliers. Et comment je l'encourageais? Je lui disais pas, vas-y maman, je sais que tu peux le faire, encore 5 mètres, tu es arrivé. Allez, vas-y, encore 3 mètres ou 2 mètres. Non. Évidemment, chacun de nous fait la même chose. Instinctivement, nous aidons la personne à porter sa charge. C'est ce que Dieu fait, afin que nous ne nous plions pas sous un fardeau trop lourd. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En réalité, la question n'est pas de savoir si l'épreuve est insupportable. Elle semble insupportable. Parfois, elle est insupportable. Mais la question est de savoir avec certitude que Dieu nous promet de ne pas dépasser ce que nos capacités ne peuvent porter. Nous pouvons être courbés par la charge, mais pas brisés, cassés. C'est ce que dit Asaph. Cependant, dit-il, je suis toujours avec toi et tu m'as saisi par ta main droite. Dieu est là. Dans l'épreuve, Dieu nous tient dans sa main. Cette main droite, c'est une métaphore pour désigner sa proximité et sa puissance. Sa main nous sert de guide. Tu m'as saisi par la main droite, dit-il, tu me conduis, dit Asaph. Sa main nous sert de réconfort pour nous rassurer. C'est cette main qui a été posée sur Jean l'apôtre quand il a tremblé devant la vision de Jésus. C'est cette main qui essuie nos larmes. Cette main qui nous sert d'appui afin que nous ne tombions pas parce que nous sommes déséquilibrés. Tandis que tu marches sur le chemin de la vie, eh bien la main du Seigneur est là, accessible. Tu peux compter sur sa puissance. Cette main a ouvert la mer devant les Hébreux face aux Égyptiens. Cette main a fait jaillir de l'eau, nous dit le psaume 74. Dieu agit. C'est parce que les enfants d'Israël ont cru que la charge était maximale, était dépassée, qu'ils se sont rebellés contre Dieu. « Oh Seigneur, c'en est trop! Tu nous as sortis d'Égypte, c'est vrai, mais dans quelle galère tu nous as mis hein ?» Avant la mer Rouge, eh bien, il dit ceci, « N'est-ce pas ce que nous te disions, Moïse, en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Ben, non. Et puis dans le désert, que sommes-nous morts par la main de Pharaon ? Nous étions assis tranquillement devant des marmites de viande et nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. Eh oui, quand nous ne distinguons plus la main du Seigneur, quand nous pensons que la charge est déjà dépassée depuis longtemps, nous disons, oh Dieu, c'en est trop. Hein? Se focalisant sur le poids de leur charge, au lieu de se focaliser sur Dieu, vous savez ce qu'ils ont fait? Évidemment, pendant 38 ans, ils ont tourné en rond, en rond, en rond. Alors que, à la fin, Moïse leur a dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Dans toute l'œuvre de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Et voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et tu n'as manqué de rien. Ça a été l'exercice salutaire d'Asaph. Il a cherché la main de Dieu, il s'est reconnecté à lui. J'ai donc réfléchi, a-t-il écrit, pour comprendre cela. Oh, ce fut pénible à mes yeux. C'est pas facile, hein, cette remise en question, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Alors les méchants, c'est pas, je pense que dans l'esprit d'Asaph, il y a aussi le mal et les épreuves et tout ça. J'ai saisi quelque chose, Seigneur. Il y a un autre solide ancrage face à nos troubles. Considérez que Dieu accomplit une œuvre qu'on ne voit pas. La deuxième strophe du cantique « Plus près de toi, Seigneur » m'a interpellé cette semaine. Elle dit ceci. « Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, tiens-moi dans ma douleur plus près de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence. » Ah. Pour l'instant, on voit peut-être pas forcément l'œuvre du Seigneur, et surtout pas dans les épreuves. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu fait une œuvre qui nous dépasse. Une œuvre dans des moments difficiles, celle de fortifier notre foi. Et c'est ce que dit Jacques. La mise à l'épreuve de votre foi conduit produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, afin qu'il ne vous manque rien. Nos épreuves participent, qu'on le veuille ou pas, mon frère, ma sœur, à notre croissance spirituelle. Dieu veut changer ce qui nous écrase en une victoire de la foi. Et Pierre lui-même le dit, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Facile à dire quand tout va bien. Un conseiller n'est jamais le payeur, hein. Fais ceci, fais cela, voilà. Ben oui, mais c'est compliqué à faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit, avant de nous dire que nous n'allons pas être tentés au-delà de nos forces, il dit, rappelle ceci, ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ah oui, c'est vrai. Se tenir debout, c'est persévérer dans la foi. Et tomber, c'est laisser tomber la foi. Si nous oublions que Dieu veut accomplir une œuvre en profondeur dans nos vies, de manière continue, nous risquons de nous décourager. Nous risquons d'être tentés de baisser les bras et de perdre notre confiance et notre amour pour lui. Nous risquons d'aller tellement parfois loin dans nos raisonnements que nous risquerions de perdre le fruit de notre travail et notre communion avec lui. Regardez ce que dit l'apôtre Jean dans son épître. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir la pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas en Christ, dans la doctrine de Christ, eh bien, n'a pas Dieu. 1 Corinthiens 3,15 dit ceci, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé comme à travers le feu. » Mon frère, ma sœur, ça veut dire que si nous venions à nous décourager à un tel point qu'on dit « Dieu m'a laissé tomber, m'a abandonné », eh bien, tout le fruit que nous avons obtenu pour lui, eh bien, sera peut-être perdu. Et le Seigneur va même plus loin avec l'église d'Éphèse. Il lui dit ceci « Souviens-toi donc que tu es tombé, repends-toi, pratique tes œuvres, tes premières, sinon... Je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. » Un avertissement pour une église qui vivait sans voir Dieu agir dans sa vie. C'est-à-dire une église sans vie, sans amour, sans fruit, une église morte. Quand le trouble nous envahit, c'est de confiance et d'amour dont nous avons le plus besoin. Non seulement envers Dieu, confiance et amour, Carmen nous l'a rappelé, mais aussi les uns avec les autres. Et ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui ne ment pas, eh bien nous pouvons compter sur lui. S'il veut nous sortir d'une situation, il en est le maître. S'il veut nous laisser dans une situation, il en est aussi le maître. Et c'est la réponse qu'Asaph a exprimée avec Dieu. Il a dit ceci, « J'étais stupide et sans connaissance. » Tant il se perdait dans ses raisonnements. « Et cependant, a-t-il remarqué, je suis toujours avec toi et ta main. Tu as saisi ma main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu nous recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur terre. » « Ma chair, dit-il, et mon cœur peuvent défaillir, Dieu sera le rocher pour toujours de mon cœur et ma part. » Voilà son ancrage, voilà sa certitude. C'est pourquoi nous pouvons dire avec Asaph, « Seigneur, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien le plus important. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Nous ne comprendrons pas le pourquoi de beaucoup de choses dans notre monde et dans nos vies, n'est-ce pas? Nous ne comprendrons pas le sens de beaucoup d'événements qui nous paraissent injustes. Cela arrive souvent, cela nous trouble, Et cela nous fait souffrir. Mais si Dieu nous a justifiés, c'est-à-dire nous a accueillis favorablement, nous qui étions pécheurs, si nous sommes ses enfants par notre foi en Jésus, Jésus qui a donné sa vie une fois pour toutes pour nous, alors relevons nos têtes. Nous pouvons lui faire confiance. Méchants comme nous sommes, nous savons pourtant donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison ce Père aussi, même si nous ne le comprenons pas toujours. Nous ne voyons dans ce monde et dans ces temps que les prémices, les premiers fruits de la victoire que Jésus a remporté. Un jour, mon frère, ma sœur, toutes les mauvaises choses seront définitivement anéanties. C'est ce que Carmen nous a rappelé. La victoire de Christ reconnue et totalement appliquée quand il reviendra. Dieu est fidèle, il est bon et il est vrai. Comme disait un frère, même si pour l'heure nous passons pour des doux rêveurs, voire des fous, nous savons qu'il reviendra. Sa promesse s'accomplira, qu'il marchera toujours avec nous. Il est ce Dieu fidèle qui ne bronche pas. Que notre ancrage puisse être en lui. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il continue à nous accompagner. Amen.